C'est mon Snake Boisvert tous les mercredis dans notre segment Abs Radio. D'habitude, de 10h55, on était un peu en retard aujourd'hui, puis pour ça, je m'en excuse. Simon, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi, Tony?
Ça va très bien. Ça va peut-être moins bien pour Oliver Kapanen, parce que, veut pas, tout le monde veut jouer dans la Grande Ligue, tu sais, même si il n'aimait pas ça, habiter à l'hôtel, il l'avait mentionné hier, là, qu'il aimait pas ça à l'hôtel, mais par contre, aujourd'hui, il va être dans un avion de destination Suède, où est-ce qu'il va aller jouer pour l'équipe d'Olli Jokinen à Timrå. Qu'est-ce que tu penses de son renvoi en Suède?
Ben moi, j'ai deux commentaires à faire là-dessus. Premièrement, toute cette histoire là, que les joueurs de la Ligue de Suède ont des clauses qui font en sorte ils peuvent pas être envoyés dans la Ligue américaine. Et puis, tu sais, on sent là, quasiment, là, on sent un peu le bébé gâté là-dedans, tu sais. Et puis qu'eux autres, ben, ils aiment mieux retourner dans leur petite ligue de danseurs de ballet là, plutôt que d'aller dans la Ligue américaine faire vraiment l'apprentissage du métier de la Ligue nationale.
Oui.
Je pense que Kapanen, c'est là qu'il aurait dû se retrouver.
Oui.
Mais bon, le règlement est fait comme ça, Je pense que c'est normal. Kapanen, il avait pas affaire dans la LNH, mais je comprends pourquoi on lui a donné un essai en début de saison. On n'avait pas le choix. On ne pouvait pas l'envoyer au Rocket. Le deuxième commentaire que je vais faire, c'est que lorsqu'il a bien performé en match pré-saison, moi, j'étais pas très emballé sur Oliver Kapanen. Tu sais, on en a parlé.
Oui.
Puis j'ai reçu beaucoup de tomates hein, là-dessus. Alors, enfin, c'est...
Non, mais c'est un bon leçon à retenir pour tout le monde. Puis je suis content que tu l'as dit. Moi, écoute, il a joué un match en pré-saison que j'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Par contre, j'en ai vu d'autres. Guillaume Latendresse, Mike Libéraux, je te sors quelques noms, OK? Ils ont connu des matchs pré-saison qu'ils étaient incroyables à un jeune âge. Et là... Oui. En voyant qu'ils étaient des gars de chez nous, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui mettaient la pression sur le Canadien. Il faut que ces gars-là commencent avec le Canadien. Mais quand la saison, on voyait qu'à un moment donné, on voyait qu'ils n'étaient pas prêts, puis on savait quand ils étaient prêts. Puis des fois, des matchs de pré-saison, là, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont jouer, et les vétérans qui vont jouer, ils vont pas se donner à fond. Et les vétérans qui vont jouer, ils vont jouer pour ne pas se blesser. Donc, tu sais, les matchs pré-saison, les bonnes performances, il faut prendre puis il faut en laisser. Hein. Puis évidemment, on vient de voir qu'Oliver Kapanen, c'est pas parce qu'il a connu un très, 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 très bon match en match pré-saison qu'il était prêt pour la Ligue nationale. Il n'était pas. Il n'était pas prêt pour la Ligue nationale. Puis tu vois, là, Martin Saint-Louis faisait pas con hier. Il a joué moins de 8 minutes.
Ouais.
Puis c'est pas ça que tu as besoin dans la Ligue nationale, c'est ton quatrième trio. Là. Un gars comme Kapanen, il doit jouer dans les premières deux trios dans un top league pour s'exprimer offensivement au lieu de jouer dans le quatrième trio. Parce que le quatrième trio dans la Ligue nationale, là, c'est, ça prend des gars qui complètent leur mise en échec. Ça prend des gars qui peuvent changer le momentum d'un match. On va voir si Condotta va être en mesure de le faire. Je pense qu'un jour, Florian Jacquet sera en mesure de le faire. Je pense qu'un jour, Thorpe sera en mesure de le faire. Puis je pense qu'un jour, Luke Tuck sera en mesure de le faire. Mais comme on a toujours dit, Snake, la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. Le non. Canadien voulait faire le développement l'année passée. Tu veux faire jouer tes joueurs parce que tu ne ferais pas les séries? Parfait. Là, ils disent qu'ils veulent essayer d'apprendre à gagner. Ils ne peuvent pas gagner avec Kapanen sur un quatrième trio, Snake. C'est ça.
Ben non. Puis, mais comme je t'ai dit, probablement Kapanen aurait été cédé aux Rockets. Ça n'a pas été du fameux règlement. Mais ils l'ont essayé. Ils lui ont donné une dizaine de matchs. Et puis, mais Kapanen, pour moi, c'est pas un top 6. C'est pas un futur top 6. Alors, pour moi, c'est un petit peu un no man's land là, pour ce gars-là. S'il ne peut pas jouer sur un quatrième trio puis qu'il ne peut pas jouer sur un top 6, ben à ce moment-là, tu le mets où? Pis je pense qu'il n'est même pas assez offensif pour jouer sur un troisième. Alors, on parle d'une carrière probablement en Suède ou en Finlande.
Oh, wow! Oh, oui. Wow! Tu ne penses pas qu'Oliver Kapanen, un jour, ne pourrait même pas se retrouver sur un troisième trio avec le Canadien?
Non.
Wow.
Non, parce qu'un troisième trio là efficace, il faut quand même que tu ailles... Tu marques peut-être quoi? 10-15 buts? Mettons, là, tu sais, on sera pas trop exigeant, là. 10-15 buts, peut-être? Est-ce que tu vois vraiment Oliver Kapanen, toi, être capable d'aller chercher un 10-15 buts puis une trentaine de points?
Mais le problème qu'on a actuellement avec le Canadien, là, il y a plusieurs problèmes, mais un problème, c'est que si Kirby Dach n'est pas un joueur de centre, là,
oui.
Est-ce que Michael Hage serait assez bon pour être un deuxième joueur de centre? Puis si oui, ça va prendre combien de temps?
Bon, moi, je pense que c'est pas impossible que Michael Hage devienne un bon joueur, un bon deuxième centre. Ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas s'il va signer à la fin de l'année ou s'il va retourner à l'université, mais peu importe, même s'il signe Je pense qu'il ira au Rocket l'année prochaine. Sinon, il finit une deuxième année collégiale. Alors, peut-être à l'âge de 20 ans, on pourrait l'amener sur un troisième trio. Puis à l'âge de 21, il pourrait peut-être être prêt pour le deuxième trio. Donc, on parle d'à peu près 3 ans.
Parce qu'Owen Beck, il va être quoi? Il va être un joueur de quatrième trio? Est-ce qu'il peut être un joueur de troisième trio, Owen Beck?
Ben, encore là, je ne vois pas un gros potentiel offensif pour ce gars-là. Fait que si tu veux un joueur de troisième trio, encore là, qui ne sera pas capable de faire une trentaine de points, Owen Beck, c'est pas ton homme.
Est-ce que tu es en train de me dire que selon toi, on ferme les yeux sur Demidov pour une seconde, là, parce qu'on sait que c'est tout un talent, là.
Oui.
Mais est-ce que les jeunes prospects des Canadiens, est-ce que tu es inquiet?
Non.
OK.
Non, je ne suis pas inquiet. Puis, n'oublie pas, il y a un gros choix en 2025 qui s'en vient.
Oui. Mais là, au moment qu'on se parle, les Canadiens ont quatrième pire fiche de la Ligue nationale. Là.
Voilà.
Donc, ça... Écoute, moi, c'est drôle, là, parce que, tu sais, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui partagent mon opinion, là, parce qu'ils ont peur d'être les Sabres de Buffalo, ils ont peur d'être, je sais pas, des équipes qui ont été en reconstruction pendant longtemps. Mais moi, là, si tu ne vas pas faire les séries, je préfère être dans les 4-5 pires équipes de la Ligue.
Ben oui.
Qu'être 20e. Parce que 20e, ça, c'est le vrai no man's land, là.
Oui.
Ou 22e, ça, c'est du no man's land.
Oui.
Tu sais, je peux comprendre quelqu'un qui va me dire, oui, mais, tu sais, si tu batailles pour un place en série, puis là, tu rates les séries, puis tu finis 9e dans l'Est ou 10e dans l'Est, mais tu as joué des matchs importants à la fin, puis c'est bon pour la culture, je peux comprendre. Mais à la fin, le fait reste que tu n'as pas fait des séries, et tu vas avoir le 12e choix au lieu d'avoir le 4e choix. Je préfère avoir le 4e.
Ben, moi aussi. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que je pense que... Oui, je comprends, tu sais, des fois, il y en a qui mélangent un peu, là, l'histoire de la courbe de progression. C'est sûr qu'à un moment donné, avant de faire les séries, tu ne passeras pas nécessairement de la 29e position puis te rendre en série. Il va y avoir peut-être un moment où tu vas finir 9e ou 10e dans ta conférence. Mais à ce moment-là, ça signifierait que le club est sur une lancée et que passer à travers le No Man's Land ne dure pas longtemps en chemin vers les séries et peut-être un corridor sous la coupe. Le problème, c'est quand tu construis une équipe pour te retrouver constamment dans la lutte pour les séries, il y a des années tu l'as fait, il y a des années tu ne les fais pas. Puis règle générale, c'est pas mal ça que ça a été le Canadien au cours des 25 dernières années, particulièrement sous le règne de Marc Bergevin. On visait toujours les séries. Il y a des années, il les faisait, il y a des années, il les faisait pas. Mais, tu sais, à part les grosses performances de Halak en 2010, Carey Price en 2014, puis 2021, le Canadien commençait jamais la saison comme un possible favori pour la Coupe Stanley. Puis ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Puis je pense que c'est ça qu'il doit viser. Ils la gagneront pas chaque année, ça c'est sûr, il y a 32 équipes. Mais ce que tu veux... C'est une équipe qu'au mois d'octobre, quand les experts se réunissent autour de la table, ils disent « Ouais, le Canadien, il est dans le mix pour la Coupe. »
Kirby Dach hier, à la droite, premier trio, 20 minutes. Malheureusement, pas de production. Mais est-ce que tu l'as senti plus confortable à l'aile qu'au centre? Parce que là, c'est le gros point d'interrogation avec le Canadien, là. Il n'y a personne avant le début de la saison qui ne voyait pas Dach au centre. Mais je pense que même Saint-Louis commence à avoir des doutes. Là. Par contre, il n'a pas produit hier soir.
Oui. L'affaire avec Kirby Dach, là, ça fait longtemps que je le suis quand il est arrivé dans la Ligue de l'Ouest. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours le feeling que ça serait plus un ailier chez les pros. Puis tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point le gars peut produire. Tu sais, il y en a qui parlent des fois de Kirby Dach comme un joueur de 70-80 points possible. Moi, je pense pas. Alors, il va falloir qu'il se trouve une niche chez le Canadien, une bonne chaise, et que c'est un gars qui est capable de contribuer. Tu sais, c'est un gars qui a une forte présence sur la glace, il a un gros physique, il est quand même... Tu le vois, tu sais, c'est pas un gars qui est invisible. Mais est-ce que ça va être nécessairement un gros, gros producteur de points ou une locomotive pour un trio? Moi, je pense pas. Alors, tu sais, Kirby Dach, ailier d'un deuxième trio au sein d'un bon club, Ben, je pense que ça serait sa chaise, d'après moi.
Et si jamais c'est sa chaise, elle y est droit sur le premier trio ou elle y est droit sur le deuxième trio?
Dans un gros club, deuxième.
Martin Saint-Louis dit qu'il va falloir trouver l'équilibre entre la défense, jouer, mieux jouer défensivement et créer de l'attaque.
Ouais.
Mais depuis d'un match, les gros attaquants, Suzuki, Caulfield, tu les vois presque pas.
Ouais, là, c'est un très petit échantillon, évidemment, là, parce que, bon, la semaine passée, on les voyait. Là, les deux derniers matchs, on les a moins vus. Faut pas non plus juger sur une coupe de match. Cependant, c'est sûr que c'est un équilibre, ça, qui est possible de réaliser habituellement quand t'es les Panthers de la Floride. Comprends-tu? Quand t'as du talent, quand t'as un gros club. Là, le Canadien, c'est quoi l'identité du Canadien?
Mm-hmm.
Quand ils essaient de jouer ouvert, ben, ils risquent de se faire planter 7-2. Puis quand ils referment le jeu, ben, ils ont quand même perdu à Pittsburgh samedi. Mm-hmm. Puis offensivement, ça n'a pas été fort fort. Hier, ils ont eu une grosse, grosse première période.
Une grosse première période. Pas bien commencé les premières deux minutes et demie, ah, mais les dernières 17 ça, minutes ça et demie, là, ça a été fantastique. Là. Ça a été...
Ouais, mais puis, les deux dernières périodes, ils ont 8 lancés au but. Puis comment ça, tu veux gagner?
Oui, ça c'est aussi vrai, là. Mais ouais. Ils auraient pu gagner ce match-là hier. Là.
Oui. Ah oui, oui, oui.
T'sais, ils
ah,
auraient oui. pu gagner ce match-là hier.
Oui, Coronato qui égalise en fin de match. Ça, c'est juste un jeu. Mais ça prouve quand même...
Slavkovski qui touche le poteau, Noah qui manque une chance en or là, avec le fameux one-timer là, qui rate. Là.
Mais ça prouve une chose, Tony. C'est que là, on voit une certaine tendance depuis le début de l'année. Nonobstant les performances des gardiens de but, là, exemple Montembeau, le premier match.
Oui.
Le Canadien, lorsqu'il joue contre des équipes moyennes ou faibles, ils sont dans la lutte. Ils peuvent gagner ou ils perdent par un but, ou tu comprends?
Oui.
Mais la minute qu'ils affrontent des clubs de plus haut calibre...
OK, Snake, rebonjour. Je regarde le temps de jeu des défenseurs des Canadiens hier. 26-23 pour Matheson. Moi, personnellement, je trouve que Matheson, il a bien joué hier. Honnêtement, je pense qu'il a bien joué. Il a 5 takeaways, il y a 4 lancers bloqués, excuse-moi, je ne sais pas le terme takeaway en français, là. Il y a 2 lancers au but, il y a 2 tentatives qui ont été bloquées, il y a 2 mises en échec, il finit sa soirée à moins 1, il a joué 26-23. Lane Hutson, il a joué 21-29, mais encore une fois, il est sur la deuxième vague de l'avantage numérique, un avantage numérique qui était 1 en 3 hier, là, c'est pas la fin du monde, là. C'est un avantage numérique qui va bien pour le Canadien, Snake, mais il y en a plusieurs qui demandent pour avoir Lane Hutson en première vague. À ça, tu dis quoi?
Ben, ils ont raison. Si tu prends la meilleure option pour jouer à la pointe dans le jeu de puissance, pour le Canadien, c'est Lane Hutson par beaucoup. Là. J'enlève rien à Madison. Mais Hutson, quand il est sur la glace, à la pointe, il se passe toujours quelque chose. Alors, je ne sais pas, ça va venir éventuellement, j'imagine. Là. Il y a juste 13 matchs de jouer.
Oui.
Tu te prives quand même de ton meilleur élément. Et lorsque tu le mets sur la deuxième unité, ben là, les joueurs avec lesquels ils jouent sont moins bons. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est pas optimal si tu mets pas Hutson sur la première unité.
Justin Baron était à l'écart du jeu hier. C'est Struble qui a joué avec Jack High, troisième paire défenseur. Struble, il a joué 3 minutes, 3 secondes plus que Jack High. Puis à un moment donné, je pense qu'il a sauté un tour parce qu'il s'est blessé à un bras. Peut-être même 2 tours. Là, mais un, il en a sauté, ça c'est sûr. On voit là avec Jack High, là, des 14 minutes, des 13 minutes, des 11 minutes, des 10 minutes, puis hier soir encore, 11-34. Il a été efficace dans ces 11-34-là, oui, mais il n'est plus le Jack High qui était avant. Est-ce que tu as l'impression que Martin Saint-Louis a voulu changer le jeu de Jack High et qu'il s'est dit, ce gars-là, je lui donnerai pas beaucoup, puis si je lui donne pas beaucoup, il va être meilleur. Qu'est-ce que tu en penses le fait qu'il y a eu juste 11-34?
Ben, je pense que c'est normal. Tu sais, si tu regardes à travers la ligue, même dans les meilleures équipes, les défenseurs de troisième paire ne joueront pas 20 minutes par match. Tu sais, c'est jamais égaux, là. C'est jamais 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et un joueur comme ça, qui est moins talentueux, tu sais, plus tu le protèges, moins tu lui donnes de minutes, ben plus tu cours la chance qu'il soit efficace en jouant un moins grand nombre de présences sur la glace. Tu sais, parce que tu t'exposes, hein? Tu exposes un joueur quand tu le fais jouer beaucoup. Puis tu sais, ça vaut pour bien du monde. Mettre Lane Hudson 26 minutes par match, je trouve pas que c'est une bonne idée non plus, tu sais. Alors, je pense que dans le cas de... Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la LNH qui sont capables de jouer les 26-27 minutes à la défense. Alors, je pense que dans le cas de Jack High, c'est la meilleure chose à faire. C'est ça, hein? 10 minutes par match, je te dirais.
Deux beaux buts de Coronato hier.
Oui.
Mais qu'est-ce que tu penses de Montembeau? C'était deux beaux buts, oui, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que, selon toi, il aurait pu faire mieux?
Ben, gardien peut toujours faire mieux, mais on ne peut pas dire qu'il a laissé passer deux mauvais buts. C'est sûr qu'un gardien, mettons, qui vole un match, ben, il aurait arrêté le lancer de Coronato. Peut-être que... mettons, Montembeau, peut-être qu'il l'arrêterait une fois sur deux. Peut-être qu'un gars comme Carey Price l'aurait arrêté une fois sur dix. Ça, je ne sais pas. Mais quand j'analyse les gardiens, moi, je donne quand même... le bénéfice du doute qu'à un moment donné, un gardien ne peut pas tout arrêter. Puis moi, ce qui m'importe plus, c'est le nombre de mauvais buts. Et on ne peut pas dire que c'était des mauvais buts que Montembeau a donné.
OK. La solution, selon toi, est-ce que c'est ça qu'on va voir, selon toi, maintenant, d'ici la fin de la saison? Martin Saint-Louis qui a dit... Il est allé dans un commentaire très intéressant hier. Il avait l'air quelque chose comme ça. Il a dit, si j'avais pas demandé au gars de resserrer la défensive à Pittsburgh et jouer comme on jouait auparavant, on aurait peut-être gagné le match 5-4. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on commence à jouer du bien meilleur hockey défensivement, parce que jouer de la façon dont on jouait avant, c'était comme juste mettre un band-aid dessus. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves-tu que le Canadien essaie de maintenant d'incorporer le jeu défensif? C'est-tu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû commencer à la fin de la dernière saison? Au lieu de faire ça le 12e match de l'année?
Ben, si tu veux minimiser les dégâts, oui. Mais là, peut-être qu'ils ont surévalué l'effectif. Et puis, ils se sont dit, ben, les matchs de 5-4, on va les gagner. Alors que là, lorsqu'ils ouvrent les écluses, ils perdent 7-2. Alors là, je pense qu'il s'agit de savoir, là, Calgary-Pittsburgh, c'est pas des grosses équipes, mais je pense que ce fameux resserrement du jeu, il va falloir voir qu'est-ce que ça donne lorsqu'ils vont affronter des meilleures équipes, et il y en a qui s'en viennent. Alors, est-ce que ça va faire en sorte qu'ils vont perdre de 3-2 au lieu de 7-2, ou est-ce que ça va leur donner une chance de gagner? Tu sais, ça, on n'a pas la réponse en ce moment, parce que ça vient d'être mis en place samedi. Alors, mon avis, c'est attendons de voir contre les grosses équipes qu'est-ce que ça donne. Mais c'est sûr que le manque de talent à Montréal, oui, par rapport à la majorité des autres équipes, ça, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire contre ça.
Mais je me demande si essayer d'attaquer le jeu défensif maintenant, au 11e match ou au 12e match, ouais, faisait vraiment partie du plan pour cette saison, du plan préétabli, où c'était pas dû à un moment de panique après avoir encaissé 6 buts deux fois, 7 buts et 8 buts.
Parce que la panique, là, oui.
Mais pensez-y un peu, là. Ils ont perdu 8-2 face au Kraken. La semaine d'avant, ils avaient perdu 7-2 face aux Rangers. Puis après avoir perdu 8-2 face au Kraken, évidemment, là, il y avait de la critique partout. Et là, même la critique avant ça, là, il a dit, j'écoute pas la critique de qui provient des gens à qui je demanderai jamais conseil, là. Et là, il y avait tellement de critiques, le jeu défensif, le Canadien n'a pas beaucoup d'expérience à l'arrière du banc, ils n'ont pas un coach d'expérience, ils n'ont pas un adjoint d'expérience. On commençait à parler du manque d'expérience du staff, on commençait à parler de Pascal Vincent, puis là, boum, tout d'un coup, non, on doit changer, on doit jouer défensivement, puis c'est ça qu'ils ont fait lors des dernières deux matchs. Je me demande, j'aimerais bien ça savoir, puis je sais, je pense qu'on ne saura jamais, là, si c'était déjà un plan préétabli qu'on attaque le jeu défensif à X nombre de matchs, ou c'était un peu de panique après avoir perdu deux matchs dont ils ont été comme détruits, démolis.
Moi, je pense que c'est de la panique, parce que Lorsque le Canadien a préparé son plan cet été,
Oui.
mois d'août, mettons, début septembre, je pense qu'il y avait trois facteurs, deux facteurs auxquels ils n'avaient pas nécessairement pensé, ou en tout cas, qu'ils n'avaient pas prévu. Premièrement, la blessure de Lainé. Alors ça, c'est pas de la faute à personne, là, c'est arrivé. Et deuxièmement, ils comptaient beaucoup, eux autres, sur un deuxième trio, tu sais, Doc, Lainé, et puis Newhook. Mais Doc et Newhook ont un grand total de de trois buts à eux deux. Alors imagine-toi, là, tu comptes sur un deuxième trio, Lainé, Doc, Newhook, pour faire des flamèches. Mais la réalité, c'est que ce trio-là, en partie à cause de la blessure à Lainé, a juste trois buts. Fait que là, ça vient défaire tous les plans, ça, non?
Je comprends. Le troisième trio, là, ils ont jonglé avec le troisième trio, puis là, Evans était là, mais là, Evans est rendu deuxième joueur de centre. Moi, je t'avais dit, là, je t'aurais dit durant l'été, hey Snake, Jake Evans, là, il va être le deuxième joueur du centre du Canadien. T'aurais dit quoi? Parce que
Ben,
là, il est là.
je t'aurais dit, prépare-toi pour la loterie du repêchage 2025, ça risque d'être un choix très élevé. sais, Jake Evans, deuxième centre, là, c'est classique des équipes de bas de classement. Fais le tour des équipes là, de bas de classement dans la Ligue depuis quelques années et il y a toujours des choses comme ça, là. Un Jake Evans qui est deuxième centre, un gars qui est absolument pas à sa place et qui est là par défaut pour toutes sortes de raisons. Alors, ces équipes-là finissent dans le boulier de la loterie.
Ouais, puis mais pour une équipe qui dit on veut apprendre à gagner, ça met pas l'emphase sur Kent Hughes maintenant pour aller chercher un deuxième joueur de centre. Parce que sinon, là, s'ils vont vivre avec Doc, ça se peut que ça va être ça va être quelque chose qu'ils vont attendre, puis attendre, puis attendre, puis attendre, puis attendre. Tu sais, moi, je te dis pas que Doc pourrait pas être un joueur de centre, un bon joueur de centre. Ça se peut qu'il l'ait, tu sais, parce que on parle de late bloomer. Il y en a certains qui arrivent plus tard. Mais les Blackhawks n'étaient pas convaincus non plus, hein.
Tu sais, les Blackhawks, c'était en reconstruction. Donc, Kirby Doc, à l'époque, qui avait 21 ans au moment de l'échange, si je me rappelle bien, mais normalement, il cadrait dans le groupe d'âge autour duquel on veut bâtir. Et on l'échange pour un choix de repêchage qui donne un joueur encore plus jeune. Tu sais, on a échangé un 21 ans pour un 18 ans, finalement, là. C'est quand même un peu curieux. Tu sais, je comprends qu'ils ont fait le ménage, là. Tout le monde est parti à Chicago, mais il y avait quand même un joueur qui était dans ce groupe d'âge-là, puis on ne l'a même pas gardé. Alors oui, peut-être qu'ils ont eu des doutes. Est-ce que c'est les blessures? Est-ce qu'ils se sont dit, ben, c'est un choix numéro 3 au total qui ne jouera jamais à la hauteur de son rang de sélection? Ça, c'est possible. Tu sais, il y a une pression sur Doc, là. Il a été choisi troisième. S'il avait été choisi 20e, peut-être qu'on ne parlerait pas comme ça, mais c'est un gars qui a été choisi troisième dans une année où il y avait des très bons joueurs, là. Chicago a laissé passer des très bons joueurs en 2019 pour choisir Kirby Doc. Alors, c'est possible. Je comprends qu'il a été blessé et tout l'an passé, mais je vois pas, là, je viens de te le dire, là, je vois pas un gars de 70-80 points du tout, du tout, du tout, du tout.
Y a-t-il quelque chose qui n'a pas essayé à date? Parce qu'on dirait que Saint-Louis a tout essayé. Il a mélangé ses trios. Il a mis Slavkovski sur le deuxième trio. Il a mis Doc sur le premier trio. Il a mis Doc au centre. Il a mis Doc à l'aile. Il a mis Newhook au centre. Il met Evans au centre. Il a mis Dvorak au centre. Il avait mis Evans avec Gallagher. Là, il y a Dvorak avec Gallagher. Il y avait Kapanen sur le quatrième trio. Là, il n'est plus là. Il a fait jouer tous ses défenseurs, mais une chose qu'il n'a pas essayé encore, je te pose la question, mais je vais dépenser à quelque chose. Il n'a pas
Ouais.
essayé le 11-7 encore.
Non, ça c'est vrai. Une pratique qui est devenue quand même un petit peu plus courante là, dans les dernières années. Ça serait peut-être une bonne idée. L'autre chose qu'il n'a pas essayé encore, on l'a dit, Lane Hutson sur la première vague d'unité d'avantage numérique. Mais ça demeure quand même seulement quelques minutes par match, là. Ouais, le 11-7 pourrait être une idée. Mais Tony, tu sais, je comprends que Il y a l'idée d'essayer de trouver des solutions, puis que le Canadien ne comprend pas trop, mais tu sais, j'ai l'air un peu d'être fixé sur la reconstruction, là. Mais c'est bien correct que le Canadien finisse dans les bas-fonds. Ils vont repêcher un potentiel joueur étoile. Alors, pourquoi essayer de réorganiser les chaises sur le Titanic?
Parce qu'il veut pas être il veut pas te perdre tout le temps. Il veut pas être dans la cave tout le temps.
Non, tu veux pas, mais tu n'as pas les effectifs pour gagner.
Je
Tu sais, quand même, tu
pense qu'il vient de
réorganises.
réaliser ça.
Ben oui, tu n'as pas l'effectif pour gagner. Je pense que l'erreur, ça a été de parler du mix.
Je pense que ça a été une erreur. Parce qu'il faut
Alors,
être honnête.
je ne sais pas.
Oui,
Je
mais.
sais pas tout ça.
Il voulait élever les attentes pour les joueurs, mais il faut être honnête. Le Canadien devrait. Je te dis devrait. Devrait être bien meilleur l'année prochaine, encore avec une année de plus d'expérience en arrière de la cravate pour tout le monde, le staff, les joueurs, avec un Lainey en santé, on espère, et l'arrivée de Demidov.
Oui, écoute, l'année prochaine, Tony, je te le concède, ça va prendre une amélioration, mais l'amélioration, moi, je ne veux pas voir l'amélioration grâce au fait que Dvorak marque 20 buts, là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ce que je veux voir l'année prochaine, c'est la progression de tous les jeunes joueurs, l'arrivée de Demidov, l'impact que ça va avoir. Lainey, est-ce que ça vaut la peine de le garder ou pas dans l'avenir? Parce que quand même, un gars qui n'est pas très vieux, là, il a quoi, il a 26 ans seulement. Qu'est-ce qui va arriver avec Randbacker? Moi, c'est plus ça qui m'importe l'année prochaine et non pas.
Mayo qui était le joueur de la semaine dans la Ligue américaine en passant.
Oui, mais ça, tu sais ce que j'en pense.
Oui, je comprends, mais à un moment donné.
Il peut bien faire 3 points par match dans la Ligue américaine.
Écoute.
Pour moi, Mayo, non.
Écoute, ça se peut que tu aies raison. Tu as déjà eu raison sur certains joueurs, puis pas sur d'autres, comme n'importe qui. Moi aussi, j'ai eu raison. Moi, j'ai eu tort, comme n'importe qui. Mais à un moment donné, quand je te parlais de Logan Mailloux à London, toi, tu me disais, ouais, mais il est sûr âgé, puis il joue avec des jeunes, là, c'est normal. Mais moi, je te dirais que là, il est un jeune, puis il joue avec des vétérans dans la Ligue américaine, puis quand même, là, il est excellent, là.
Oui, je comprends. Sauf qu'à un moment donné, tu n'as jamais pensé que, puis tu sais, Tony, là, je ne devrais même pas dire ça, qu'il y a des joueurs, à un moment donné, qui sont des joueurs 4A, pour employer un terme de baseball.
Ouais.
T'sais, c'est-à-dire un joueur qui est trop fort pour la Ligue américaine, mais pas assez fort pour la Ligue nationale.
Et tu penses que lui va être un de ces gars-là, comme un genre de Barry Boulet en passant, qui joue à l'attaque, qui est un des meilleurs dans la Ligue américaine, mais malheureusement...
Tony, moi là, je ne change pas mes prédictions à toutes les trois matchs. Là. Moi, je t'avais dit que Logan Mailloux pouvait être un défenseur numéro 6. Au sein d'une bonne équipe dans la LNH. Ça, c'est une prédiction depuis que le Canadien l'a repêché. Alors, moi, je vais m'en tenir à ça, puis je vais voir l'évolution. Alors, je ne te dis pas non, là. Là, je ne suis pas là pour le... Mais est-ce qu'il pourrait devenir un joueur 4A? Ça se pourrait.
Snake.
Ça se pourrait qu'il devienne un joueur 4A.
Ouais.
Mais pour le moment, écoute, c'est un défenseur de 21 ans. Moi, j'aime bien donner 2 ans dans la Ligue américaine aux défenseurs avant de voir de quel bois il chauffe.
C'est un point intéressant parce que l'équipe des Red Wings qui avait connu tellement de succès dans le passé, les Red Wings, eux autres, ils avaient une règle. Hein? 3 ans dans la Ligue américaine aux 250 matchs.
Voilà. Fait que c'est pour ça que Mailloux, je maintiens ma prédiction du début, puis on verra ce qui arrivera. Mais c'est sûr que ça ne regarde pas bien pour un top 4. Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui voyait Mailloux dans le top 4 d'une bonne équipe à la défense, ça, par exemple, je suis convaincu plus que jamais que ça ne sera pas le cas.
Merci, mon ami. On se parle bientôt, mercredi prochain. Hey, Processus, il est sorti hier avec Mathias?
Ben oui, il est sorti hier. Il
y a été question de qui exactement?
Pardon?
Il y en a été question tes sujets hier?
Ben, on parle évidemment de la reconstruction du Canadien et... On commence à faire le tour du repêchage 2025. On parle de 7 joueurs qui sont susceptibles de se retrouver avec le Canadien au mois de juin si la tendance se maintient.
Merci beaucoup, mon ami. On va être à l'écoute sur toutes les plateformes, évidemment. Sur toutes les plateformes. OK, merci beaucoup.
Je te dis pas que c'est des défaites automatiques, mais on n'est pas loin de ça, là.
Alors,
ils sont dans le territoire d'Anaheim, des Sharks, de Columbus, des Blackhawks. Là, c'est vraiment. C'est comme l'année passée, finalement. Mais même je pense, l'année passée, à date, là, je trouve qu'ils ont été plus compétitifs l'année passée que cette année.